Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Chèque de 100 euros pour 10 millions de travailleurs modestes qui ont impérativement besoin de leur voiture pour se déplacer. Ça se fera sur une déclaration sur l'honneur. Alors, est-ce qu'il fallait dépenser 1 milliard d'euros au moment où le prix du pétrole est en train de sacrément reculer? On est sous les 78 dollars le baril. Voilà. Ce chèque a-t-il vraiment un sens compte tenu des prix tels qu'ils s'annoncent à la fin de cette année et au début de l'année 2023? On va parler d'immigration. Alors, il y a un texte actuellement qui est en discussion, on ne va pas l'évoquer sur un thème politique, mais sur un thème économique. Est-ce que l'immigration fait partie de l'ADN de l'économie française? Est-ce qu'il faut d'ailleurs aller vers cette fameuse immigration choisie? Et un autre sujet sur l'organisation de la vie du travail, c'est l'histoire de la semaine de 4 jours. Attention, 4 jours, ce n'est pas de la RTT, hein. On garde la même durée hebdomadaire, 35 heures, mais au lieu de l'étaler sur 5 jours, on ne l'a fait qu'en 4 jours. Il n'y a donc pas de modification de salaire. Et une étude publiée hier nous dit que 12% des entreprises françaises envisagent cette semaine de 4 jours. Également dans l'actualité, on dira un mot des retraites. Vous savez que maintenant, l'ultimatum des syndicats est là. Il y aura une première journée d'action contre cette réforme en janvier. Souvenez-vous, en 2010, il y a eu 14 journées d'action qui avaient été mobilisées contre le passage de l'âge légal de 60 à 62 ans. Et puis, ce chiffre confirmé par une étude Natixis, la France va émettre 270 milliards d'euros de dettes en 2023. Un quart de la dette européenne émise sera française, mais c'est un contexte de hausse de taux, un contexte de désengagement de la BCE. Et on en parle depuis deux jours, une des grandes agences de notation, Standard & Poor's, n'a pas exclu d'abaisser la note de dette souveraine française. Bonjour Emmanuel Auriol.
Bonjour.
Bienvenue, mettez le micro plus près de vous. Vous êtes professeur d'économie à la Toulouse School of Economics et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission et donc avec un de ses membres chaque jeudi, également membre du Conseil d'analyse économique. Stéphane Garcillo, bonjour.
Bonjour.
Responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, également membre du Cercle des économistes. Et Xavier Thimbaud, bonjour Xavier.
Bonjour.
Directeur principal de l'OFCE. Bon, je vous refais pas tout le schéma de ce chèque dont on a parlé hier. Il est sous condition de ressources. Il faut aller sur le site du gouvernement, mettre son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et déclarer sur l'honneur que l'on a besoin de sa voiture pour aller travailler. 1 milliard d'euros mobilisés en 2023 pour cette ristourne, enfin ce chèque carburant contre 8 milliards dépensés pour la ristourne 2022 qui profitait à tout le monde. La problématique des gros rouleurs a disparu. Il n'est plus nécessaire de démontrer qu'on fait, je sais pas, 25 ou 28 ou 30 kilomètres par jour pour être bénéficiaire. Je posais la question comme ça, Xavier Thimbaud, je sais pas par quel angle vous voulez voir ce sujet. On a toujours dit d'abord qu'il fallait des aides ciblées. On peut dire que cette fois-ci, c'est ciblé.
On peut dire que c'est plus ciblé. Donc
plus ciblé.
Sur deux critères. Le premier, c'est un critère de revenu, mais qui est quand même assez large puisque ça va jusqu'au cinquième décile, ouais, de la distribution des revenus, donc la moitié en gros.
On peut considérer que c'est le revenu médian.
Voilà. Alors
c'est 1900 net le revenu médian.
C'est ça. C'est un petit peu moins en fait de la moitié des gens parce que comme ça s'adresse aux gens qui sont aussi en activité, c'est-à-dire au travail, et ensuite qui utilisent leur voiture pour se déplacer. En fait, dans la première moitié de la distribution des revenus, on va quand même enlever beaucoup de gens, en particulier ceux qui n'ont pas de revenus d'activité ou ceux qui n'ont pas de voiture et donc qui fatalement ne peuvent pas l'utiliser pour se déplacer.
Ouais.
Donc ça fait pas la moitié des ménages français, ça fait moins à cause de ça. Donc c'est un ciblage, c'est beaucoup plus ciblé que ce qu'il y avait précédemment. C'est aussi beaucoup moins généreux. Alors on a quand même perdu...
Ça fait 10 centimes par litre si on fait 12 000 km
alors,
dans l'année.
Voilà, c'est 10 centimes par litre en moyenne. Donc on a quand même,
oui, en moyenne, oui.
On a quand même perdu une caractéristique du dispositif précédent qui était que c'était une ristourne à la pompe. Et donc, que c'était lié à votre consommation d'essence.
Ouais.
Alors, évidemment, ça ne discriminait pas les gros consommateurs qui ont une grosse voiture qu'ils utilisent pour leurs loisirs. Les gens qui font des tours de piste en Ferrari, par exemple, bénéficient.
Ça court les rues, oui.
Voilà, Stéphane a ce genre de loisirs, par exemple. Donc, probablement.
Ben, Stéphane va arrêter de faire des cours
donc,
des tours de piste en
voilà,
Ferrari.
Donc, il n'aura plus la ristourne à la pompe.
Des tours de vélo.
Voilà, des tours de vélo.
Rouge.
Bon, ok. Donc, Stéphane n'a pas de Ferrari, mais des gens qui ont des Ferrari, qui font des tours de piste, bénéficient de cette ristourne. Mais aussi, surtout, ce que ça voulait dire, c'était vous étiez un artisan, vous faisiez beaucoup de kilomètres avec votre fourgonnette, et vous aviez, à ce moment-là, une ristourne qui était proportionnelle au nombre de kilomètres que vous faisiez. Là, c'est un chèque de 100 euros.
C'est
quel que soit,
oui, bien sûr.
Quel que soit ce que vous fassiez. Donc, si vous faites peu de kilomètres par an, 12 000, pour votre travail, c'est très bien. Mais si vous en faites 40 000, ben, vous n'allez pas recevoir plus. Et donc là, il y a un moindre ciblage dans ce sens-là.
Je vois ce que vous voulez dire.
Qui a été réalisé.
Donc, vous regrettez le côté gros rouleur qui était initialement inscrit dans le projet alors ? C'était gros rouleur au début.
C'est un petit peu décevant en fait ce dispositif, parce que finalement, on pouvait imaginer que cette crise c'était l'occasion de pouvoir mettre en place des dispositifs. Alors forcément un peu plus compliqué qu'un chèque sur déclaration sur l'honneur.
Ils ont voulu faire simple, là clairement.
Oui, mais la question c'est qu'on est face à un problème qui est compliqué, qui est la transition et la protection d'un certain nombre de gens par rapport à la transition. Le fait qu'on veut quand même mettre un signal prix pour que les gens changent leur comportement, et donc. Un dispositif compliqué, c'est un petit peu ce qu'il est nécessaire de faire pour avoir un signal prix fort et en même temps qui va pas mettre tout le monde dans la rue.
Ouais.
Là, on a un peu l'impression que on a un peu laissé tomber parce qu'on a dit c'est trop compliqué. On va faire un truc qui est pas extrêmement pertinent à un moment où les prix du pétrole baissent et où la ristourne
devient plus
symbolique.
En plus, peut-être que là, on est.
Je pense que le gouvernement est un peu se dit un peu, je veux éviter à tout prix les gilets jaunes, donc je vais quand même mettre quelque chose et on va voir si ça passe parce qu'on est même pas sûr que ça va suffire. Bon, voilà. C'est un peu décevant de ce point de vue-là. Okay. C'est l'équation budgétaire est remplie, hein. On est passé de 8 à 1. Donc ça c'est quand même, on a quand même fermé un robinet qui coulait et qui était quand même un peu trop fort. Mais voilà. C'est pas très satisfaisant sur le plan de la créativité de notre administration.
Au début, on s'était dit qu'il allait falloir mettre le nombre de kilomètres, savoir si vous aviez un tramway, un bus en bas de chez vous. Voilà. Vous imaginez le.
Mais il y avait plein de possibilités. On sait où les gens habitent, on sait où ils travaillent.
Oui.
On peut très bien regarder quelles sont leurs possibilités.
Réagir. Emmanuel Auriol, vous voulez dire un mot là-dessus
sur. Oui, moi, j'étais un peu sceptique sur cette prime à la pompe pour tout le monde.
La ristourne d'avant, là.
Oui, je trouve que les Français ont économisé beaucoup, épargné beaucoup pendant le Covid, les plus riches en particulier. On a sur les thèmes d'aujourd'hui l'endettement de la France. Bon, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à effectivement ouvrir les robinets et arroser tout le monde. Et après, bon, c'est vrai que cibler les plus modestes. Moi, ce que je trouve favorable en cette nouvelle mesure, c'est que même si le prix à la pompe baisse, les ménages les plus modestes sont les plus impactés par l'inflation, qui est quand même une réalité. Et donc, c'est quand même habile, je trouve, et juste de la part du gouvernement, d'aller aider ces ménages les plus modestes. De manière simple, je ne suis pas une grande fan des usines à gaz françaises. Donc moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment une transition qui, pour le budget français, pour les ménages les plus modestes et pour la justice sociale, n'est pas si mauvaise.
Voilà. Après, c'est vrai que l'indépendant qui roule énormément et qui n'aura que 100 euros face à celui qui roule très très peu. Stéphane, on roule là-dessus ? Non, j'avance.
C'est une grosse amélioration
Stéphane
par rapport
Carcio.
Au dispositif précédent.
C'est l'harmonie du cercle des économies.
C'est clair que c'est assez simple, mais le problème des usines à gaz, des choses très compliquées qui remplissent tous les objectifs parce qu'elles sont très très bien pensées. La France, en fait, a une certaine science pour faire ce genre de choses. Le problème, c'est le taux de recours au dispositif. Si on arrive à faire une automaticité, parce que c'est un versement direct de l'administration sur la base de critères compliqués, soit, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, on demande aux ménages de venir demander, sachant qu'eux-mêmes ont compris qu'ils étaient éligibles. Et du coup, il y a un coût vraiment à rentrer dans les dispositifs qui fait baisser le taux de participation. Et du coup, on rate la cible, c'est-à-dire... On rate le fait d'aider les ménages qui en ont le plus besoin parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient éligibles. Donc, bon, il y a un peu un trade-off à faire entre simplicité et ciblage. On a quand même fait un gros progrès sur ciblage, Xavier, par rapport au dispositif antérieur.
Bien sûr.
Tous les économistes disent qu'il faut cibler depuis des mois. Donc là, on peut considérer que...
Là, je pense que, c'est quand même... Et on va quand même avoir, je pense, que c'est très simple, un taux de participation, un taux de recours élevé.
Parce
qu'il est simple.
Vous avez trois cases à cocher. Le numéro fiscal, la plaque d'IMAT... Et puis, la déclaration sur l'honneur, je prends ma voiture pour aller bosser. Si je fais 500 mètres.
Juste un chiffre sur le ciblage, quand même, pour qu'on ait bien ça en tête. Là, ça va coûter 1 milliard d'euros pour une ristourne qui est de l'ordre de 10 centimes en moyenne.
Par litre.
Donc, si on ramène au dispositif précédent, parce qu'en fait, il y a un ciblage, mais il y a aussi une réduction, qui était de 30 centimes par litre. En fait, on aurait un dispositif qui coûterait 3 milliards d'euros à comparer aux 8 milliards d'euros précédents. Alors, c'est ciblé, mais on a un ciblage, en gros, qui a réduit à 40%. Je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux que 40%. On pouvait cibler sur les 10% les plus exposés, avec un dispositif qui répondrait beaucoup mieux aux problèmes de ceux qui sont très exposés. Et c'est ça le problème, en fait. Des dizaines de milliers de kilomètres par an, en fait, qui sont dans des situations difficiles.
Mais moi, je crois qu'un des objectifs, c'est pas que les gens qui utilisent leur voiture, c'est aussi cibler des ménages modestes, tout simplement.
Il faut la plaque d'immatriculation pour
Bien sûr, il faut une voiture, mais...
Le chèque énergie, déjà, va profiter dans sa partie exceptionnelle à 12 millions de foyers. C'est quand même important. Il y a le chèque fuel qui va se cumuler également, si on est concerné. Là, on a eu le chèque bois. Bon, chèque bois, il faut avoir des factures de bois. Le chèque fuel, il faut avoir des factures de fuel.
Un chèque bois, chèque... c'est pas un chèque en bois.
Oui, oui, bah j'ai...
Espérons.
On l'a faite le premier jour, mais on n'a pas voulu
insister. Ah,
elle était... Non, non, mais Xavier...
Okay, elle est... Non, mais elle est pas prête.
Elle est... Non, mais elle... Tout le monde... Et franchement, tout le monde ne pensait qu'à ça ce jour-là. Et même en parlant, j'avais peur de faire le lapsus. Tellement c'était... Donc voilà, bah oui, mais là, il y a chaque carburant... Mais le, j'entends ce que vous dites, les 10%, mais là vous m'auriez dit, ah oui, les 10%, mais effectivement il y aura des trous dans la raquette et il y a celui qui... Bon.
Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel, c'est important de voir que bon, c'est un chèque pour les ménages qu'ils peuvent utiliser en fait comme ils veulent.
Voilà.
Mais exactement.
Et, y compris pour réduire un peu leur consommation pour ceux qui peuvent. Alors, d'accord, il y a des trous dans la raquette, les gros rouleurs. Ok,
je. C'est la critique qui a été faite hier. Hein.
Bien sûr, et c'est la réalité. Cela étant, parmi les ménages qui ont une voiture et qui ont les moyens de réduire un peu leur consommation, le chèque est beaucoup plus efficace que le prêt à la pompe,
bien sûr.
Voilà. Ah bah ça, c'est sûr. Oui. Du coup, c'est beaucoup plus compatible avec d'autres objectifs de réduction des émissions, etc. Donc bon, voilà. Finalement, c'est voilà, ça a aussi certaines vertus.
Mais le couple qui habite dans une commune rurale à la montagne.
Moi.
Et qui doit faire beaucoup de kilomètres pour aller à son travail, amener ses enfants à l'école ou amener ses enfants dans leurs activités, puisque c'est pas parce qu'on habite dans la montagne qu'on n'a pas le droit d'aller au football le samedi après-midi. Bah, ce couple-là, avec deux enfants.
Il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein.
Il n'y en a pas beaucoup.
Mais
celui-là, il a un vrai choc en fait sur son mode de vie.
Il y aura toujours.
Oui, mais bon,
ça peut pas être totalement.
Ça va dans
universel.
Le bon sens. Moi,
ça peut pas être universel. Non. Enfin, je vois pas. Il y a un moment. Si, quand c'est universel, ça s'appelle la ristourne 2022. Et alors là, effectivement, après on dit oui, celui qui prend son gros SUV, qui est plein de, qui a de quoi se payer son carburant 2,50, il en profite. Bon, après on n'est jamais content en fait, Xavier. C'est ça le truc. Je me rends compte que dès qu'il se passe quelque chose,
ça c'est Xavier qui est pas content. Hein.
C'est une jolie formule.
Il faut toujours être exigeant et donc jamais complètement satisfait. On peut toujours faire mieux. Je veux dire, on peut pas dire, voilà, là on a le dispositif parfait et on est prêt pour faire la transition environnementale avec ce dispositif. C'est pas vrai. On peut dire que c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Ça, je souscris complètement.
D'accord.
Mais
pour aider les plus fragiles, il est possible de mettre en place un crédit d'impôt dégressif selon le revenu fiscal de référence sur la base des revenus déclarés, j'imagine.
Bien sûr.
C'est un auditeur qui s'appelle Duguidon qui me dit ça.
Bien sûr.
Il y a vélo, lui.
C'est une possibilité pour faire un dispositif qui ne serait pas très compliqué, c'est de coupler ça à la déclaration d'impôt et d'utiliser tout ce qu'on sait dans la déclaration d'impôt pour, à la fin de l'année, verser quelque chose qui correspond mieux à la situation des gens. C'est plus compliqué, mais pas si compliqué que ça, parce que la déclaration d'impôt, elle est déjà compliquée. Il faut déjà déclarer sa situation familiale, il faut déjà déclarer
C'est aussi plus dur à mettre en œuvre. Au sens, dans l'urgence, les dispositifs compliqués, c'est une ingénierie dont on sous-estime le temps. Il faut voir que les services à Bercy, pour sortir des choses un peu intelligentes avec la déclaration, c'est pas totalement presse-bouton. Ça prend quand même quelques mois. Quand on est dans une situation d'urgence, envoyer un chèque, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et là, il est ciblé sur un critère hyper simple. C'est pas trop compliqué et ça va beaucoup plus vite.
Et puis bon, le gouvernement a été traumatisé par les gilets jaunes. Il ne faut pas l'oublier. Donc l'essence, on veut vraiment éviter ça maintenant, quoi. D'avoir la France à l'arrêt en plus par des manifs, par des blocages, c'est pas le moment. Donc bon, voilà. Je crois qu'il y a ça derrière.
Il y a des marqueurs dans l'histoire qui marquent les choix politiques. Il y a effectivement les gilets jaunes. C'est un marqueur qui va laisser une trace indélébile sur certains sujets. De la même manière, je l'ai déjà dit, que le tragique décès de Malik Oussekine a profondément modifié la doctrine du maintien de l'ordre en France. Là, on n'est pas sur l'économie, mais on voit que ce sont des marqueurs au long cours. J'ai mis dans l'actualité économique du jour l'immigration. Parce qu'Emmanuel Auriol, vous avez commis pour le Conseil d'analyse économique une note sur l'immigration. On a plein de sujets politiques autour de ça, mais on a aussi des sujets économiques. Immigration choisie ou pas immigration choisie. L'appel de Thierry Marx à régulariser de manière rapide, dit-il, les travailleurs, parce qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Quel est le message que vous avez voulu faire passer dans cette note, Emmanuel Auriol?
Oui, donc en fait, on avait commis cette note un an, on avait commencé à travailler dessus un an avant la campagne électorale, on anticipait que ça allait être un sujet, évidemment. Et nous, ce qu'on voulait rappeler, c'est que 95% de l'immigration sur Terre, c'est une immigration à motif économique, absolument pas autre que celle-là.
Hein. 95% des flux sont pour des raisons économiques.
Oui, donc pour travailler, pour étudier, voilà. Et donc, le débat français complètement arc-bouté sur des questions identitaires et sécuritaires passe à côté vraiment des enjeux de l'immigration. Dans notre pays, on compte les immigrés comme on compte les morts sur la route. Il y avait des candidats qui proposaient de la réémigration. Enfin, c'est quand même incroyable, sachant que, évidemment, les immigrés contribuent grandement à l'économie d'un pays. En particulier, et c'était l'objectif de notre note, les immigrés qualifiés.
Donc, j'ai vu les étudiants qui ont une contribution nette positive
à la France.
Et
alors, les immigrés qualifiés, alors, dans notre travail, on le sait bien, par exemple, nous, on pratique évidemment en recherche l'exogamie. Si on enlève tous les immigrés en recherche, mais on est à poil quoi, en France. Donc, ne pas vouloir d'immigrés, notamment qualifiés, c'est une erreur. Par exemple, aux États-Unis, ils sont 13% de la population américaine. Ils sont 26% parmi ceux qui posent des brevets et 26%, 25% parmi ceux qui créent des entreprises. Donc, une surreprésentation des immigrés qualifiés parmi les créateurs d'entreprises, parmi les innovateurs et bien sûr parmi les exportateurs et importateurs, parce que c'est des ponts dans la globalisation. Quand ils sont qualifiés en particulier. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les immigrés, ce n'est pas des gens ordinaires, c'est des gens qui s'auto-sélectionnent et qui aiment le risque. Parce que pour aller décider d'aller habiter à 8000 km de chez soi, sans son réseau, sans ses aides, sans sa nourriture quotidienne, que tous les auditeurs s'imaginent faire ça, c'est très coûteux en fait. Moi, je l'ai fait pour mon travail, je trouve ça très coûteux. Ce n'est pas toujours agréable. Et donc, c'est des gens qui sont très ambitieux, qui aiment le risque. Et pour être un entrepreneur, pour être un innovateur, pour faire de l'import-export, sport, et c'est des qualités indispensables. Donc, ce n'est pas un hasard. Et la France en a énormément bénéficié dans le passé. Hein. On a eu des Picasso, on a eu des Marie Curie. Ils sont où aujourd'hui, tous ces gens ? On ne les veut pas, on veut les réémigrer. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Donc, pour notre intérêt purement égoïste économique, notre stratégie n'est pas la bonne. Et en plus, en ce moment, et c'était vrai avant la crise du Covid, il faut quand même le rappeler, nos entreprises cherchent des salariés. Hein. C'était vrai avant, et alors là, c'est encore pire aujourd'hui. Il y en a une sur deux qui cherche des salariés, d'où l'appel...
Thierry Marx, pour l'UIMH, il a été élu à la tête de l'UIMH.
Alors, c'est vrai aussi pour les travailleurs non qualifiés, moins qualifiés, j'aime pas ce terme non qualifié, mais moins qualifiés, qui contribuent évidemment aussi positivement à l'économie. On se souvient des gens qui nous apportaient à manger pendant le confinement. Enfin donc il y a vraiment un apport aussi de gens peu qualifiés, mais l'immigration qualifiée, c'est particulièrement productif. Donc bon. Voilà.
On sait faire ça, l'immigration qualifiée, parce que je ne sais pas si on l'a déjà pratiquée en France, cette fameuse immigration choisie. En fait, c'est presque une immigration. Montrez-moi votre CV, je vous dis si vous pouvez rentrer.
C'est ça le principe. L'immigration choisie, c'est très, moi je trouve, connoté politiquement, parce qu'il y avait ce clivage politique. Je pense que ce n'est pas une bonne façon, là encore, de présenter ce débat. On parle d'immigration travail, les entreprises choisissent leurs salariés, donc c'est normal de se demander si j'ai besoin d'une infirmière ou d'un ingénieur en informatique ou d'un serveur. Quand on parle d'économie, il y a des besoins et est-ce qu'on peut les remplir. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'aller vers ce qu'a fait le Canada, de changer vraiment notre logiciel vis-à-vis de l'immigration en France. Des pays l'ont fait, par exemple l'Australie était très fermée à l'immigration, notamment enfin, à toute immigration, mais économique aussi. Ils ont complètement changé leur façon de gérer l'immigration. Le Canada n'avait pas un visa à point autrefois. Ils l'ont introduit. C'est des choix politiques de réformer les politiques migratoires. Et nous, on propose de faire la même chose, c'est-à-dire d'introduire un visa à point. Pour l'instant, il faut savoir qu'il n'y a aucun canal pour un immigré, notamment qualifié, pour venir en France spontanément, si ce n'est le passeport talent, c'est 12 000 titres par an, bon, peanuts, quoi. Et donc, comment on fait ? Si vous êtes quelqu'un de qualifié, vous dites, tiens, j'aimerais bien aller en France, ben, vous ne pouvez pas. Il faut qu'une entreprise vous réclame. C'est pas très malin. Honnêtement, c'est pas très malin.
On marque une pause. Vous réagirez sur ce sujet. Je crois qu'on en a quasiment jamais parlé dans cette émission. Il y a Nouge qui m'écrit. Vous tenez vraiment à votre histoire de signal prix, me dit-il. Quand l'inflation est à 10%.
Dit, oui.
Oui, mais non, mais vous n'êtes pas le premier, Xavier.
Oh, mais je le redirai aussi.
Ouais, ouais, mais oui, mais il continue non, Nouge. Mais,
je pense qu'il faut, il faut arrêter avec la diabolisation du signal prix. Beaucoup d'économistes ont été très naïfs en disant que c'est la seule solution. Et une fois qu'on a fait le signal prix, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ça n'est pas vrai, mais le signal prix, il est indispensable. Bon. On ne change pas les comportements.
On marque une pause, mais il termine, Nouge, en disant quand l'inflation est à 10%, bon, elle n'est pas à 10% en France, elle est à 6,2%. Hein. Est-ce que c'est vraiment le moment ? Est-ce que si on diffère de 12 mois ce signal prix parce que la situation est très compliquée, c'est une catastrophe ? Dis-moi. C'est toujours l'histoire de feu. Il faut le faire, mais c'est jamais le bon moment. Vous avez vu les retraites, c'est pas le bon moment.
L'inflation, il y a une histoire de poulet d'œuf. L'inflation, c'est la hausse des prix de l'essence. Donc, c'est la hausse des prix de l'essence.
Pas que.
C'est pas que ça, mais c'est quand même en partie ça. Enfin, les prix de l'énergie. Et ça, c'est un signal prix qui est quand même extrêmement important.
On marque une pause. Dans un instant, je vous ferai réagir sur la démonstration d'Emmanuel Auriol. Et puis, on parlera de la semaine de 4 jours.
C'est lié, à mon avis.
Ah ben, très bien, c'est lié. Et puis d'ailleurs, aussi, sur les perspectives de hausse salariale 2023, ouais, c'est le cabinet lié. Alixio qui nous a donné une estimation à plus 4,5% pour les salariés du privé. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Emmanuel Auriol, professeur d'économie à la Toulouse School of Economics, membre, on le dit en anglais parce que c'est la marque internationale.
Hein, c'est ça, Emmanuel, c'est notre métier est assez international, ouais. Donc on est obligé d'avoir des labels internationaux.
Membre du Cercle des économistes et du Conseil d'analyse économique, le Cercle, partenaire de cette émission. Chaque jeudi, j'en ai deux, si vous voulez, le prix d'un.
C'est le luxe.
Stéphane Carcio est avec nous.
Les deux meilleurs, hein, vraiment.
Oh, exactement. Responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po et donc membre du Cercle que des économistes. Et Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Quand même, chaque fois qu'on a un chèque, j'en ai toujours des réactions comme ça. Voilà. Eh bien, on parle toujours des plus modestes, me dit cet auditeur, mais celui qui est un peu juste au-dessus, qui travaille, paye des impôts, mais est un peu au-delà du seuil qui permet d'avoir accès à tous les chèques en tout genre, eh bien, il le vit très mal. C'est un sujet, Xavier, ça. Hein, c'est un sujet, parce que c'est les gilets jaunes, en fait, ces gens-là.
Alors, c'est un sujet... C'est
et un... Gabriel Attal est très sensible à cette situation.
C'est un sujet... Il y a une réalité derrière, qui est qu'effectivement, quand on fait un seuil, il y a des gens dessus, il y a des gens en dessous. Oui.
C'est toujours les mêmes.
Et puis, ça renvoie un peu à ce que je disais sur le fait qu'on ne cible plus, donc... Voilà, il y a des gens qui vont recevoir le chèque et qui, en fait, ne roulent pas beaucoup, et puis d'autres qui roulent beaucoup, qui vont recevoir un petit chèque, ou pas de chèque du tout. Après, on en discutait à l'instant, il faut pas alimenter le sentiment que en France, on aide que les gens jusqu'au troisième ou quatrième décile, qu'il y en a que pour eux et que les autres ils ont rien du tout.
Mais ils le ressentent comme ça.
Oui, mais
ceux qui bossent pas, on leur donne de l'argent.
Il faut qu'ils regardent autour d'eux. Ils ont
accès à beaucoup de
choses. Ils ont une couverture santé. Ils ont une éducation qui est gratuite ou quasi gratuite. Ils ont accès à des infrastructures qui sont aussi extrêmement peu chères. On est en train de fibrer toutes les campagnes de la France. Enfin, c'est un effort d'investissement public qui est considérable et qui n'est fait dans pratiquement aucun pays au monde au frais de la collectivité.
D'accord, mais on ne peut pas insulter le ressenti.
Je veux dire, quand on dit j'habite à la campagne et un certain revenu et j'ai rien du tout, ben oui, mais c'est quand même des gens qui vont accéder au très haut débit et qui pourront aussi télétravailler dans leur campagne, bien que ça soit à faible densité et que ça représente un investissement avec un rendement qui est extrêmement faible du point de vue de l'opérateur de fibre. Et d'ailleurs, c'est subventionné. Donc voilà, on vit dans un pays qui est comme celui-là. Ça, c'est pas des choses qu'on voit parce qu'on ne les paye pas et on a le sentiment que c'est normal. Mais voilà, demandez à Emmanuel, elle vous expliquera comment ça se passe aux États-Unis.
Mais bien sûr, mais enfin, on va pas ouvrir ce débat parce que mais l'INSEE a fait un travail très intéressant il y a quelques mois.
Très important.
Et très important en disant voilà ce que la redistribution monétaire permet de réduire comme inégalité et voilà ce qu'on obtient en plus en ajoutant ce que les services publics apportent.
Ah oui, c'est fondamental.
C'est parce fondamental.
Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un être humain que d'être soigné quand il est malade et que de pouvoir espérer que ses enfants soient éduqués. Ouais. Je veux dire, c'est les deux
choses. Certains vous diront que ce sont justement des choses qui commencent à pêcher dans notre pays.
Parce que c'est vrai qu'en même temps, voilà, il y a des réformes à faire, il y a des exigences. Mais je pense qu'il faut quand même rappeler aux Français à quel point notre système, et qu'il faut donc protéger, hein, est protecteur. Je pense que c'est une chance pour notre pays. Mais bon, voilà, ils reçoivent de l'État. Par la redistribution des services publics, beaucoup.
Mais vous voyez par exemple,
ils sont à l'abri de risques.
Des plus gros chocs qu'on peut avoir.
Qui viennent détruire des vies dans d'autres pays. Voilà, vous avez une grave maladie en France, vous allez être soigné de la meilleure façon possible pour un coût, un reste à charge qui sera dérisoire. Ça n'est pas le cas partout dans le monde.
Je suis d'accord. Mais à côté de ça, on ne peut jamais balayer d'un revers de main au nom de la science et des chiffres le ressenti de la population. J'ai cet auditeur Fredo qui me dit l'inflation est sous-estimée, son calcul est biaisé, bientôt la récession. On a vu dans notre dernier sondage de Doxa que la moyenne d'inflation perçue par les Français, c'est 15,8%.
Oui, mais parce que les Français, ils regardent le prix de l'essence.
Le prix de l'essence,
et ils le voient affiché tous les matins sur la route, même quand ils prennent pas d'essence. Alors qu'ils voient pas le prix des autres choses, en fait, qui sont pas affichées de la même façon.
Les brosses à dents, par exemple, elles sont moins chères qu'avant.
Ah bon ?
Eh oui.
Il y a ce chiffre, justement, du Trésor, qui est exactement, je crois, trait pour trait celui que l'OFCE avait établi. Le choc énergétique 2022, l'État a pris à sa charge 52% du choc, les entreprises 42% et les ménages 6%. Alors après, c'est vrai qu'on voit dans les réactions, on n'a rien, tout est plus cher.
Non, mais il y a des gens...
Emmanuel Auriol, on est en train de quitter notre débat précédent, mais je vais y revenir. Non, c'est... non allez-y.
Non, je ne veux pas.
Mais si, mais moi je...
ce débat dans la mauvaise direction.
Non. Mais si, mais non, mais vous vouliez réagir sur quelque chose.
Moi, j'ai oublié, ça y est.
Bon, vous avez oublié. Allez, on revient sur l'immigration. Stéphane Carcillo, quand vous entendez ce que décrivait Emmanuel Auriol, au-delà même de l'étude économique que ça peut représenter, ce travail du Conseil d'analyse économique, ça semble évident. Ça semble évident qu'on a besoin des immigrés et on a besoin d'immigrés qualifiés.
Oui, alors on a besoin, surtout dans le marché du travail actuel, qui est extrêmement tendu, comme vous savez, à la fois en France et dans pas mal de pays.
Un peu plus près du micro. Hein.
On a vraiment une situation où les employeurs cherchent de la main-d'œuvre, à la fois de la main-d'œuvre non qualifiée et de la main-d'œuvre très qualifiée. C'est intéressant d'ailleurs parce que le marché du travail, comme vous savez, se polarise. On a les emplois avec des qualifications moyennes, médianes, qui sont facilement automatisables, qui ont tendance à disparaître. On a une très très forte demande pour les emplois qualifiés, les emplois professionnels qualifiés, des services très qualifiés, mais aussi des ingénieurs et dans les services liés à la digitalisation, très très important. La santé aussi, très qualifiée, services professionnels très qualifiés. Et puis on a aussi des besoins dans les services peu qualifiés, parce que c'est tous les services à la personne, le soin, les services à la personne, les livraisons, l'hospitalité, la restauration, etc. Et en fait
La construction aussi.
La construction aussi. Dans les pays de l'OCDE, on a cette polarisation qui...
C'est valable dans tous les pays de l'OCDE.
C'est valable dans presque... C'est une intensité variable, mais c'est valable dans presque tous les pays.
C'est une tendance, oui.
Y compris en France.
C'est l'effet sablier, quoi, comme on dit.
Voilà, l'effet sablier. Et donc, ça crée des besoins très, très forts dans un marché du travail aujourd'hui qui est extrêmement tendu. C'est naturel qu'on ait à la fois besoin d'une main-d'œuvre qui vienne de l'étranger pour des postes peu qualifiés, comme pour des postes très qualifiés. Les deux sont essentiels pour faire fonctionner l'économie. Vraiment, c'est important parce que ces services...
Autant on peut sélectionner des gens sur leur qualification, sur leur non-qualification, ça devient beaucoup plus compliqué.
Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un peu cette absence en France de vision sur les besoins liés à l'immigration. Et du coup, c'est difficile de faire venir les gens dont on a besoin en particulier. Il n'y a pas d'adéquation entre les entrées et les besoins des entreprises. C'est un peu l'idée de la note, c'est de remettre en adéquation, comme l'ont fait le Canada, l'Australie, d'autres pays un peu mieux. Et d'une certaine mesure, par le passé, les États-Unis avec certains visas qu'ils avaient, de mettre un peu mieux en adéquation ces besoins et ces entrées. Mais en tous les cas, cette immigration, elle est essentielle au fonctionnement de notre économie. Et elle contribue très très fortement, à la fois par le travail de ces personnes qui sont immigrées, et puis par l'insertion de leurs enfants, qui, vous savez, en général, d'ailleurs, ont une insertion sociale et une progression sociale plus forte que les nationaux. Justement parce que les parents arrivent avec beaucoup d'ambition, qu'ils ont pris des risques, que leurs enfants en fait ont transmis à leurs enfants ce goût du risque et aussi cette motivation. Et en général, quand on suit les enfants de parents immigrés, ils ont une progression plus forte, par exemple en matière d'éducation ou d'insertion sur le marché du travail par rapport à leurs parents que les nationaux. Donc voilà, il faut regarder ça dans son ensemble, dans sa globalité. C'est quand même une contribution positive à notre économie.
C'est intéressant d'entendre ce débat avec un œil purement économique et pas du tout passionnel sur le terrain politique. Emmanuel Auriol et puis après Xavier Timbaud. Oui.
Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Stéphane parce que c'est très important que les auditeurs comprennent que l'immigration travaille. C'est effectivement un moteur de croissance, donc ça crée des bons emplois, des good jobs, comme on dit en anglais, pour les Français. C'est parce qu'ils peuvent le voir comme une menace, hein, ce que je peux comprendre. Mais en fait, et c'est très, très bien expliqué juste avant, ils sont complémentaires. Donc les compétences des immigrés sont complémentaires, on le voit dans toutes les études, des nationaux. Donc en général, ils sont soit moins qualifiés, soit plus qualifiés que les nationaux. Et donc, ils permettent de remplir des demandes qui ne sont pas remplies autrement. Et quand ce n'est pas rempli autrement, vous savez ce que font les entreprises ? Elles renoncent à créer de l'activité. Elle délocalise. C'est ça la réalité. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si je ne trouve pas de salariés, ben, soit je ne fais rien, soit je vais m'installer ailleurs où je trouverai des salariés. Et donc les Français sont heurtés par ces politiques.
Réaction de cet auditeur. Non, l'éducation et la santé ne sont pas gratuites. Ce sont mes impôts qui financent tout ça.
Tout à fait.
Bon, on n'a pas dit qu'ils n'étaient pas coûteux. On a dit que les gens de la classe moyenne ne les payaient pas directement. Voilà.
Donc sur le sujet de l'immigration...
Juste pour mettre à l'avocat du diable et pour profiter de la présence d'Emmanuel et de Stéphane sur cette question, mais Emmanuel y a en partie répondu, mais je pense que c'est important qu'elle le redise. On oppose souvent en fait, l'immigration et le chômage en disant ça va faire du chômage pour les Français. il y a déjà du chômage. Est-ce que c'est pas contradictoire avec cet objectif? Ou même, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, sur la réussite des enfants d'immigrés. Mais la réussite des enfants d'immigrés, est-ce que ça va pas provoquer l'échec des enfants nationaux? Et est-ce que ça, c'est pas, du coup, contraire à ce qu'on doit faire pour notre population? Avocat du diable, hein.
Moi, très rapidement, juste sur la...
Pas d'insulte personnelle.
Sur l'activité. Ça, c'est des raisonnements qu'on entend, c'est un peu la même logique d'ailleurs qu'avec les 35 heures, c'est de penser que l'économie, c'est un gâteau à taille fixe, et donc si je mets plus de gens, je vais avoir des parts plus petites, forcément, c'est l'idée.
Il y a un peu de ça, effectivement.
Or, l'économie française est en croissance, en moyenne permanente, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pas un gâteau à taille fixe, c'est un gâteau qui croît en taille. Et donc, plus il y a d'activité économique, évidemment, plus cette croissance est soutenue, et donc plus il y a de boulot pour tout le monde. Là, l'idée, effectivement, il y a des chômeurs, mais beaucoup sont sans qualification. On ne va pas les mettre sur des boulots hautement qualifiés, d'ingénieurs, d'infirmières.
Les mettre sur des boulots moins qualifiés.
Oui, alors ça, c'est une possibilité, mais il va falloir à ce moment-là, dans beaucoup de cas, supprimer, parce que c'est des boulots, certains, très pénibles, physiquement, incompatibles avec la vie de famille. Si vous êtes une mère seule avec deux enfants petits, donc vous allez supprimer le RSA et tout ça pour que ces gens prennent ces emplois. Ce sera... Parce que tant qu'il y a ça, ils peuvent dire, bah, non, je préfère m'occuper de mes enfants à la maison. Et... Mais donc il y a quand même des enjeux.
Les emplois sont différents. Stéphane, c'est important, c'est que les emplois que prennent, qu'acceptent les immigrés sont des emplois que ne peuvent pas prendre ou accepter les nationaux, soit parce qu'ils n'ont pas les qualifications.
Pourquoi ne peuvent pas
soit parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires, soit parce qu'ils ont les qualifications, mais que ce n'est pas assez qualifié pour eux, que les emplois sont dans des conditions de travail qui sont mauvaises. Et prenez par exemple le travail agricole, qui sont des conditions très difficiles. Prenez par exemple le travail le saisonnier,
la restauration de nuit,
etc. Donc évidemment, ce sont des travaux qui sont difficiles, avec des horaires difficiles, et très souvent les immigrés sont prêts à les accepter parce qu'ils viennent de pays où les conditions de travail sont bien pires, et pour eux c'est une forte progression. Ils espèrent que ce soit une marche dans leur intégration dans le pays, ils l'acceptent alors que les Français n'acceptent pas. Donc c'est pas les mêmes emplois non plus, et ce que dit Emmanuel est très important, c'est pas un gâteau à taille fixe, parce qu'on a ces emplois, on va créer encore plus d'emplois derrière pour les nationaux. Et donc,
J'entends ce que vous dites, mais je pense que c'est quand même la clé du débat, c'est-à-dire c'est de bien expliquer cette articulation, parce que malgré tout, il y a des zones de contact. Des immigrés vont accepter des emplois que d'autres ne veulent pas, mais ça veut dire aussi, par exemple, qu'ils vont empêcher les salaires d'augmenter dans ces métiers qui seraient peut-être plus attracteurs. Si les rémunérations y étaient plus élevées, vous parlez de la restauration, peut-être qu'avec des rémunérations plus élevées dans la restauration, il y aurait plus de jeunes qui seraient en CAP pour travailler dans la restauration. Et c'est
mais la restauration deviendrait un bien de luxe, alors ça veut dire
peut-être, mais
on n'irait jamais au restaurant.
Enfin, ça dépend de la société qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une société où la restauration est un bien ordinaire qui est fait par des gens qui ont des salaires qui sont très bas et qui ne peuvent être que des immigrés, ou est-ce qu'on veut que ce soit un bien de luxe avec des conditions de travail? Donc, non, mais je veux dire, il y a derrière des questions qui ne sont pas anodines. On ne peut pas les prendre sous un angle trop naïf. Donc, souvent dans le débat public aujourd'hui, ces questions-là sont abordées de façon très grossière, et donc ça ne sert pas le débat. Mais je pense malgré tout qu'il faut quand même vraiment se pencher sur le fond de ces questions, parce qu'il y a derrière des choix de société. Il y a des pays qui vivent avec moins d'immigration. Regardez la Suisse, la nature de l'immigration.
Il y a 30% d'immigrés en Suisse.
C'est une nature d'immigration qui est complètement différente.
Non, 15% n'est pas qualifié. Ah non, je suis désolé, je ne peux pas dire ça.
Et le niveau du
Suisse est un pays qui vit grâce à l'immigration.
Et le niveau du SMIC, du salaire minimum en Suisse, donne une réponse à la question des emplois peu qualifiés et de leur rémunération qui est complètement
différente. Pas les Suisses qui occupent ces emplois-là, hein. Je vous assure, 15% des 30% d'immigration, la population suisse n'est pas suisse. 15% sont très peu qualifiés et font tous les boulots dont on parle, et 15%
mais le fond a des rémunérations qui sont extrêmement élevées.
C'est pas élevé pour les Suisses, c'est élevé parce que
ce que je veux dire, c'est que
pour les Suisses, c'est pas du tout élevé.
Non, pas du tout, ils veulent pas ces boulots-là, les Suisses.
Ce que je veux dire, c'est que ce débat est quand même d'une
le Luxembourg, la Suisse, l'Irlande,
d'une importance et d'une conflictualité qui est extrêmement grande, et dans lequel il faut véritablement aller jusqu'au fond des choses. Parce que, voilà, j'entends ce que vous dites et je partage cette partie du raisonnement, mais je sais...
Non, il faut de la pédagogie, je suis d'accord.
Je sais que ça n'est pas le cas de tout le monde, et donc c'est pour ça que je me permets de faire l'avocat du diable, parce que je pense que dans cette question, on ne peut pas le traiter... de haut.
On avance. Et c'était bien de rappeler quand même que l'économie n'est pas un gâteau fini.
Non.
C'est quand même là.
C'est normal. Quand non, on mais a ça pas a fait été, l'économie, c'est ce qu'on
pense. Ça a été la base de la réflexion de la mise en place des 35 heures.
Exactement. C'est pareil.
On allait faire plus de parts.
Toutes les dernières études récentes montrent que ça n'a pas eu d'effet sur le travail.
On refera des sujets sur l'immigration parce que le débat n'est jamais abordé sur le terrain purement économique, mais très souvent sur le terrain de l'insécurité principalement. Alors vous avez fait mouche avec votre brosse à dents, hein, parce que là, ça y est, je m'en prends plein la figure. Écoute, vous direz à Madame Auriol qu'une brosse à dents, ça se mange pas, et qu'on mange tous les jours.
Je savais que ça allait me.
Et on change de brosse à dents.
L'essence non plus, ça se mange pas, hein, pardon Nicolas.
L'essence non plus, c'est vrai.
Merci.
Non, ça se brûle, là, voilà. Les immigrés suisses sont français, m'écrit Laurence.
Certains, oui, c'est
certains,
vrai.
Oui.
Oui, tout à fait. Mais 100
000.
Oui,
c'est-à-dire que ce n'est pas des immigrés. Certains sont des immigrés, mais d'autres sont beaucoup des travailleurs frontaliers qui font l'aller-retour
dans la journée.
Dans la journée, oui.
Bon, évidemment, dès qu'on parle d'immigration, ça réagit à tout va. La semaine de 4 jours, qui veut m'en dire un mot? Stéphane Carcillo, est-ce que... Alors attention, hein, ce n'est pas de la RTT comme en 99. C'est 35 heures, non pas en 5 jours, mais en 4. Donc 9 heures par jour. Je crois que depuis le 19e siècle, les syndicats ont un acquis social qui est 8 heures max par jour de travail. Hein, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une vraie révolution positive et qu'il faut y aller? Visiblement, ceux qui la vivent sont majoritaires à trouver ça très très bien. Et même les employeurs disent qu'ils s'y retrouvent en termes de gain de productivité, de bien-être des salariés et de fidélité des salariés.
Fidélité.
Ça a l'air génial.
Non mais pourquoi pas? Je veux dire, l'organisation du travail, les entreprises font comme elles veulent. Après tout, je veux dire, rien n'empêche d'organiser le travail sur 4 jours plutôt que sur 5.
La clé, c'est comme elles veulent. Hein,
alors,
ce que vous venez de dire,
bien sûr. Alors, la clé, c'est comme elles veulent, exactement. C'est-à-dire que je pense que l'erreur serait de penser qu'il faut appliquer la même toise à tout le monde dans ce domaine. Parce que les activités ont des besoins très très différents. Être organisé sur 4 jours, ça ne va pas de soi dans plein de métiers. Parce que ça veut dire quand même que soit on ferme le 5e jour, soit on a des équipes qui choisissent 4 jours sur les 5 ou sur les 6 d'ailleurs, parce que les entreprises où on travaille 6 jours, 7 jours sur 7. Hein. Donc,
7 jours.
Ou sur les 7 jours, exactement. On pourrait imaginer s'organiser différemment. Bon, alors, donc l'importance, je pense, à mon avis, c'est vraiment d'avoir cette liberté. Mais d'ailleurs, les entreprises ont cette liberté aujourd'hui. Il suffit de le fixer dans le contrat de travail. C'est pas du tout. Donc l'important, c'est de pas l'imposer, parce que finalement, il y a des entreprises auxquelles ça posera des gros problèmes d'organisation des équipes.
Oui.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, productivité. Très probablement, les entreprises qui se lancent là-dedans sont des entreprises relativement plus productives que les autres.
À la base.
Naturellement. Pourquoi? Parce que travailler 9 heures plutôt que 7 heures dans la journée, en principe, si on en croit les études, ça a un léger effet négatif sur la productivité des dernières heures. Pourquoi? Parce que le matin, tout va bien, on est en forme, le soir, on commence à fatiguer, et quand on doit rajouter deux heures de travail, en général, c'est un peu plus dur, et naturellement, spontanément, on est un petit peu moins productif. Bon, alors certaines entreprises disent qu'elles voient un effet sur la productivité, peut-être parce que les gens sont plus motivés, c'est pareil, il faudrait suivre ça dans le détail, mais voilà, spontanément, on se dit que c'est pas sur la productivité horaire, hein, j'entends bien, horaire,
ouais, ouais.
C'est pas absolument évident, les entreprises probablement les plus productives pourront se lancer dans cette expérience le plus rapidement. Maintenant, parce que c'est une organisation très plaisante et que ça laisse 3 jours de libre, ça permet peut-être d'attirer des salariés plus productifs. Donc l'un dans l'autre, on perd peut-être en productivité horaire avec les salariés qu'on a, mais comme on recrute des salariés plus motivés, peut-être plus productifs et plus talentueux, finalement peut-être qu'on s'en sort aussi bien. Donc voilà, tout ça est intéressant, il faut suivre, il faut étudier, mais je crois que la clé, c'est vraiment qu'il faut laisser organiser ça de manière libre et pas l'imposer à toutes les entreprises.
L'un des arguments, dans le top 3 des arguments maintenant pour accepter un job, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est devenu très très important. J'ai rencontré des entreprises qui disent que certains candidats maintenant refusent un job s'il n'est pas 100% en télétravail. On est là. Xavier, par rapport à cette idée-là, qui n'est pas de la RTT, ce ne serait pas de la réduction du temps de travail.
Oui, j'ai compris.
Mais je le répète. Parce que. Non, mais vous savez que. Vous vous souvenez de l'histoire du boulanger à Pau, là? On lui avait imposé de fermer un jour par semaine parce qu'il était ouvert 7 jours sur 7. Il y a quand même des gens qui me disaient: vous vous rendez compte, ce boulanger qui fait travailler les gens 7 jours? Il y a quelquefois des sujets, il faut vraiment donner plein de détails pour.
Mais on l'avait fermé parce qu'il faisait travailler.
Il était.
Vous savez pas plutôt ses collègues boulangers qui avaient l'habitude de fermer un jour
par
semaine.
En fait,
c'est un autre débat, ça.
Non, mais c'est un autre débat, mais simplement.
C'est le débat des indépendants.
Non,
vous savez, les indépendants se sont imposés de fermer un jour par semaine.
Mais
de façon à éviter des concurrences déloyales
des
entre les indépendants et les entreprises plus organisées.
Ouais. Bon. Non mais c'est un autre débat, mais je rappelais juste
le sujet, c'est un autre sujet de concurrence.
C'est un sujet de concurrence et puis de différence de statut de travail indépendant versus salarié.
Je passe, mais enfin, c'était région par région, il y a des régions qui pouvaient d'autres non. Bon bref.
Non, là, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans l'après-Covid, dans un monde en plus qui devient de moins en moins industriel, et donc où les modèles d'organisation sur le travail, enfin, parce que quand on parle d'une journée de 7h ou de 9h, ça ressemble un peu au chronomètre de la chaîne. Voilà, on sait tous que dans des entreprises de service, c'est pas les heures de présence qui font l'activité, c'est pas aussi simple que ça, il n'y a pas un contremaître qui vient vérifier, non, en tout cas pas dans tous les métiers. Donc je pense qu'aujourd'hui on est quand même un peu perdu sur l'organisation du travail, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un modèle où on travaille toujours 5 jours par semaine? Est-ce qu'on doit travailler 5 jours par semaine avec 5 semaines de congés payés? Est-ce que le télétravail peut intervenir? Est-ce que le télétravail c'est vraiment du travail? C'est-à-dire est-ce que ça doit compter une journée de télétravail comme une journée au bureau dans lequel on a des interactions avec ses collègues ou pas? On sent bien aujourd'hui qu'on manque de normes et de repères, que peut-être la façon de discuter des conditions de travail avec un salarié c'était facile il y a 10 ans. On lui disait, ben voilà, t'as un bureau, t'as des horaires, puis des objectifs, et on va attendre que tout ça se mette en place, et puis on négocie dans ce cadre-là, mais c'est relativement simple. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est très éclaté. Vous signalez ces salariés qui sont pas majoritaires, mais j'en ai rencontré, qui demandent effectivement à être 100% en télétravail, ce qui est quand même parfois une exigence très curieuse. C'est-à-dire, vous vous dites, je vais payer quelqu'un, et je vais jamais le voir, si ce n'est en Zoom. Et je n'ai aucune idée de comment il travaille, de comment il organise son travail. Je m'en remets à la confiance que je lui fais et à la réception de ses productions en espérant que ça va coller avec ce que je veux. Mais comment ça se passera quand un client me met une deadline et que je n'ai pas vu le salarié en question véritablement, je ne sais pas s'il est au travail. Voilà, comment ça va se passer? Donc c'est, on est un peu perdu, on est dans un monde un peu sans repère avec des salariés qui demandent des choses, qui estiment qu'un certain nombre de choses sont dues, et puis de l'autre côté, probablement des entreprises qui ont du mal à faire des propositions attractives, mais productives aussi, parce que il ne s'agit pas juste d'attirer des salariés dans une entreprise. Il faut aussi les faire travailler quand même à un moment.
Emmanuel Auriol, sur cette histoire de semaine de 4 jours, que vous voulez...
Oui, donc moi je crois que c'est quand même lié en partie à la situation de tension sur le marché du travail. Donc c'est une demande des salariés, très clairement. Je connais effectivement pas mal de gens très qualifiés qui travaillent à l'OCDE ou autres, qui ont demandé à être en télétravail au moins 2 jours par semaine, qui habitent à Biarritz plutôt qu'à Paris, etc. Enfin bon, il y a eu des changements liés...
2 jours encore, bon...
Mais... Non, mais ça fait 4 jours, du coup, mais c'est des négociations. Hein. Mais si vous voulez garder vos salariés, effectivement, il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'ils soient contents et qu'ils partent pas ailleurs. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Hein. L'autre chose, moi, il me semble que les études montraient, alors pendant les confinements, il faut voir que les gens n'avaient rien d'autre à faire que travailler. Donc les gens qui travaillaient en télétravail dans certaines boîtes ont été plus productifs à la fin que s'ils avaient été en présentiel. Mais ça dépend, à mon avis, vraiment des secteurs. Par exemple, je pense que pour l'administration française, c'est une catastrophe d'avoir les fonctionnaires en partie en télétravail, parce que c'est pas des jours où ils travaillent beaucoup, à mon avis. Hein, c'est mon sentiment.
Ils très efficaces dans l'éducation.
Oui, voilà. Oui, alors ça, l'éducation. L'éducation.
C'est très dur.
Hein. Et pour ceux qui venaient devant leur Zoom. Ça a été une catastrophe. Donc il y a des secteurs, à mon avis, où c'est une catastrophe. Il y en a d'autres où c'est bien, parce que ça évite de perdre du temps. Et notamment des gens qui ont des missions très facilement, à mon avis, qu'on peut définir très facilement avec des objectifs très clairs. Bon, après tout. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un retour en arrière. Parce que
oui, mais je vois venir le truc assez vite. On va dire, ah bah oui, c'est un truc de privilégier la semaine de 4 jours. C'est vous avez tel job, c'est possible.
Bien sûr,
c'est
sûr.
Je suis convaincu que c'est un sujet qui va effectivement, comme je l'ai dit, polariser. Parce que ce sont des emplois qui sont relativement très productifs,
bien sûr.
Dans lesquels on a cette flexibilité-là. Et
c'est évident. C'est
on voit bien que c'est pas ça va être beaucoup plus compliqué d'organiser ça chez le petit artisan que dans la société de service IT.
Stéphane Carcy, on a 2 minutes. Juste, j'aimerais vous entendre. On a à peu près tous les détails de ce que sera la réforme des retraites, les paramètres, on voit à peu près où on va. Votre regard sur les choses telles qu'elles s'annoncent, le compte y est, c'est ce qu'il fallait faire
Je me suis exprimé plusieurs fois sur ce sujet-là et c'est très polarisant, donc je fais attention à ce que je dis.
En peu de mots, parce que le temps
est... Je pense que le gros enjeu, il y a besoin d'une réforme, parce que c'est une dépense très importante publique. C'est une des plus grosses dépenses sociales publiques, avec presque 14%
c'est
du
la plus
PIB.
Grosse, c'est la plus grosse.
C'est la plus grosse, 14% du PIB. Qu'on n'a pas grand-chose à faire sur d'autres domaines, notamment la santé qui coûte très cher, mais genre la population vieillit, les technologies coûtent de plus en plus cher, donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc évidemment, si on veut investir dans ce dont on a besoin pour l'avenir, c'est-à-dire l'éducation, les technologies vertes, pour ne citer que ces deux éléments qui sont vraiment centraux pour la France.
Et la santé, oui.
Et aussi la santé, évidemment. Il faut des marges de manœuvre. Et je ne parle même pas d'un pseudo-déficit ou d'un déficit du régime. Je crois que c'est vraiment une question. On a une population qui vieillit, on a des besoins qui sont nouveaux, et on se dit que de ce côté-là, il y a des marges de manœuvre. Alors, est-ce que les paramètres sont les bons? Effectivement, c'est très compliqué. Il y a un débat sur les mesures, soit l'âge, le report de l'âge de départ minimal en France, donc augmenté de 62 ans à 64 ou 65 ans, et puis il y a la durée de contribution qui est l'autre paramètre extrêmement important. Les deux paramètres ont des effets en termes d'économie qui sont différents à des horizons plus ou moins lointains. Donc, compte tenu de la démographie en France aujourd'hui, un paramètre qui rapporte beaucoup, c'est la mesure d'âge. Parce que si on avait une population un peu plus âgée, ça jouerait pas. Mais aujourd'hui, la mesure d'âge va rapporter beaucoup tout de suite. Bon, maintenant, elle crée aussi beaucoup d'inégalités parce que potentiellement, il y a des gens qui ont commencé à travailler très tôt et du coup, la mesure de durée de contribution est plus juste, puisqu'elle elle joue pour tout le monde et on peut sortir là. Donc on voit bien les éléments du débat, c'est pas facile. Il y a à la fois une équation budgétaire, une équation de d'équité sociale. Les paramètres sont là, il va falloir trouver le bon équilibre, mais tous les pays ont fait à peu près des choses qui sont dans ces zones.
On en reparlera.
Et l'immigration pourrait être un élément aussi dans le débat des
retraites. Mais on en reparlera parce que de toute façon, là, les syndicats mobilisent à continuer au mois de janvier et il y a des chances qu'on ait largement l'occasion de s'étendre plus que sur une minute 45 autour de ce sujet. Stéphane Carcillo, merci d'avoir été là. Également Emmanuel Loriol, vous revenez quand vous voulez, Emmanuel. Xavier Tinbeau, à très bientôt. Et on se retrouve demain à 9h.